L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, votre quotidienne sur le 100.4 FM de Transistor. Nous sommes en direct de midi et jusque 13h. C'est aussi ce soir la rediffusion en intégrale de l'émission. Vous pouvez aussi écouter ce direct et retrouver l'intégralité de nos contenus sur le site de la radio sous forme de podcast. C'est gratuit et c'est pour l'éternité. Alors elles sont de retour, hein, nos paysannes herboristes du bout du monde. Elles étaient avec nous en plateau il y a 2 semaines pour l'hiver qui se termine gentiment. Et puis là, on va basculer aussi gentiment sur le printemps. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est herboriste au printemps et quelles sont les plantes phares de cette saison? C'est Céline Fichou qui est avec nous. Vous êtes secrétaire de l'association paysanne herboriste et vous êtes aussi productrice à la Fée des Champs à Saint-Éloi. Bonjour Céline.
Bonjour Névi.
Et puis, il y a, pas comme d'habitude, chaque fois que vous venez, vous apportez aussi... un petit peu de nouvelles personnes, voilà, vous apportez une nouvelle tête, c'est bien, comme ça on voit un petit peu tout le panel de l'herboristerie. Et là, cette fois, vous êtes avec Fred Trochereau, j'ai bien dit?
Oui, tout à fait.
Bonjour Fred, ça va?
Oui, très bien. Et toi?
Bah ça va. Alors, j'ai bien dit mon texte, c'est cool. Et donc du coup, vous êtes toutes les deux, dans l'association Les Paysannes Herboristes du Bout du Monde. Alors qu'est-ce qu'on fait au printemps quand on est herboriste?
Alors, au printemps, on est vraiment sur la période de la cueillette sauvage. Donc, on a commencé notre saison par la récolte de l'ail des ours. Céline nous en parlera un petit peu plus tard. Et là, actuellement, donc l'ail des ours, la cueillette est terminée. Et actuellement, on est sur la récolte de jeunes pousses de ronces. Ça, c'est pour la partie cueillette sauvage.
D'accord. Ça consiste en quoi exactement la cueillette sauvage ? Céline.
Alors, la cueillette sauvage, c'est le fait de récolter des plantes qu'on n'a pas cultivées. Donc, on va aller dans des zones sauvages. Après, ça peut aussi être sur nos talus, les talus des copains. Enfin, la ronce, par exemple, moi, je la récolte sur les talus autour de ma parcelle. Ou j'ai un ami maraîcher qui est un peu plus loin de chez moi, qui est labellisé bio aussi, et donc je vais aller récolter la ronce chez lui. Après, on parlait de l'ail des ours. Là, l'ail des ours, c'est encore quelque chose de différent. On va vraiment dans des lieux sauvages, et on va du coup prélever la plante pour pouvoir la mettre à sécher ou la transformer.
Alors, est-ce qu'il y a une législation sur la cueillette sauvage ?
Alors, il y a des règles quand même à respecter au niveau de la cueillette sauvage. Normalement, on doit laisser 70%, si je ne dis pas de bêtises, Fred, tu es d'accord?
Oui, c'est à peu près ça.
C'est à peu près 70% de la plante sur le lieu, pour ne pas dégrader et permettre que la plante puisse se reproduire normalement. Après, c'est quand même... selon les zones, pour l'ail des ours, par exemple, des fois, on a des hectares entiers en fait, d'ail des ours. Donc, avant de récolter 30%, il faut... quand même en récolter beaucoup. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur la réglementation.
Étant paysan herboriste, c'est un métier où on est très souvent labellisé bio. Et donc, pour avoir ce label bio, notre certificateur nous demande une autorisation du lieu de cueillette. Donc, de toute façon, on est obligé en fait, de demander, là où on cueille, une autorisation du propriétaire ou de l'organisme. Donc ça peut être le bassin de l'Élorne, ça peut être... moi je sais que je fais des cueillettes sauvages sur des territoires de fédérations de chasse. Ça peut être aussi... qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le parc naturel régional, le PNRA. Voilà, donc il nous faut cette autorisation-là pour EcoCert, enfin l'organisme certificateur, et une attestation des propriétaires comme quoi le lieu est sans intrants chimiques.
Ah, donc c'est sauvage, mais pas si sauvage que ça.
On fait très attention, de toute manière, au lieu où on cueille. Donc, ce qui est en amont de la parcelle, par exemple, si y a une parcelle cultivée en conventionnel au-dessus de là où on veut cueillir, on s'interdit de cueillir sur ce lieu-là.
Évidemment.
Ouais.
Mais alors, est-ce qu'on peut cueillir sur des sites protégés ? On parlait du parc naturel. Est-ce que c'est assez possible ou pas ?
Ouais, moi j'ai eu des autorisations, mais ils déterminent vraiment des parcelles. On n'a pas le droit de cueillir n'importe où dans le parc naturel. Et par contre, toutes les zones Natura 2000, là, les cueillettes sont vraiment interdites.
Il y a une utilité justement pour, pour des structures comme le PNRA qui est une cueillette.
Je sais pas, peut-être ils communiquent là-dessus quand même.
Ouais, je sais pas du tout. Je vous pose la question. Ouais. C'est cadré comment tout ça? Vous êtes suivi? Vous avez des comptes à rendre pour tout ce qui est cueillette dans ce genre d'endroit?
On nous demande pas. Alors, moi je parle de la Bretagne parce qu'on n'est pas un lieu de cueillette sauvage intensive, on va dire.
Par rapport aux autres régions, c'est vrai?
Par rapport aux autres régions. Oui. Dans le sud de la France, je sais qu'il y a des. Déjà, il y a beaucoup de cueilleurs qui demandent à cueillir sur les mêmes lieux. Donc, des fois, ils sont obligés en fait, de limiter le nombre de cueilleurs. Il y a des cueilleurs aussi qui payent pour pouvoir récolter sur certains lieux. Et nous, c'est des choses qu'on ne connaît pas du tout ici.
Nos zones de cueillette sont aussi plus petites en fait, que, par exemple, dans le sud de la France. Quoi. Les parcelles sont beaucoup cultivées. Enfin, il y a beaucoup de parcelles cultivées ici et les zones sauvages sont.
C'est juste une histoire de quantité, quoi. Il y en a moins. C'est pas qu'on vous oblige à récolter moins.
Non.
C'est ça.
Moi, j'ai jamais eu de limite de récolte.
D'accord.
Ça ne m'est jamais arrivé. Non.
C'est juste les zones qui sont plus restreintes. Ça, c'est parce qu'on est c'est un milieu qui est très, très, très protégé en Bretagne comparé au reste au sud de la France, par exemple. Ici, on est très, très, très encadré par des structures comme le PNRA et tout ça.
Ouais, je pense que c'est pareil. Je pense que c'est aussi encadré dans le sud, mais ce qu'a voulu dire Céline, j'imagine, c'est en fait, il y a plus de milieux sauvages dans le sud de la France.
Ah ouais.
C'est plus vaste, ouais.
Ah, j'aurais pas cru. Franchement,
Ah si, la garrigue, là où ils vont cueillir le thym, les garrigues, c'est énorme, quoi. Chez nous, en milieu sauvage, c'est pas. On n'en a pas énormément.
On n'en a pas beaucoup.
Et alors, en termes d'espèces, on est loti comment ici en Bretagne? Il y en a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choix, ou c'est au contraire plutôt très limité?
Moi, je dirais que c'est plus limité, ouais, c'est que, plus limité, ouais. Qu'en montagne, par exemple.
On a moins de choix. Donc, il y a l'ail des ours, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on voit quasiment partout.
Ouais. En ce moment, il y a l'ail des ours, il y a la ronce, il y a l'ortie aussi qu'on fait en plantes sauvages. Après, un peu plus tard, on aura l'aubépine, on aura le noisetier, on aura le sureau, qui sont aussi des cueillettes sauvages de printemps. Qu'est-ce qu'on a encore en sauvage?
Moi, je fais du bouleau, des feuilles de bouleau.
Il y a feuilles de bouleau aussi.
De la myrtille. On a beaucoup de myrtille ici. De myrtille. Du noisetier.
Et après, il y aura la bruyère, mais du coup, ça, c'est plus tard.
Et c'est vrai qu'on n'a pas toutes les plantes méditerranéennes.
Voilà. On n'a pas les thyms, les lavandes, tout ça. Voilà.
Évidemment,
on les a
pas,
quoi.
Alors que ce sont des plantes très demandées en plus.
Ah, c'est dommage.
C'est dommage.
Alors, vous avez justement, on a des plantes qui pourraient qu'on pourrait échanger contre de la lavande, qui ont les mêmes propriétés, les mêmes vertus, ici en Bretagne, ou pas?
Alors, je ne partirais pas sur la lavande, je pensais plus au thym, par exemple.
Au thym, ouais.
Donc nous, c'est très compliqué de cultiver du thym par ici. Il a tendance à... On parle d'asphyxie racinaire, à cause de l'humidité excessive, on a... Le plan pourri, quoi.
Terre trop lourde, peut-être aussi? Trop argileuse, ou non, même
c'est
pas.
Plutôt, non, c'est plutôt qu'il a trop
les pieds dans l'eau.
Ouais, trop les pieds dans l'eau.
Il n'aime pas la flotte.
Non.
C'est dommage.
Et par contre, on cultive très bien la sarriette, ici, dans nos champs, qui pousse très très bien, et on est à peu près sur les mêmes principes actifs.
Ok.
Mais les clients veulent du thym.
Ouais, c'est difficile de vendre la sarriette quand quelqu'un arrive en disant « je veux du thym ».
Prenez de la sarriette, bon sang. Bon, alors, est-ce qu'il y a des précautions à prendre quand on fait de la cueillette sauvage? Moi, j'ai tout de suite, on en a parlé 2 secondes avant, hors antenne, ma grand-mère avec son griffoir pour les myrtilles, qui arrache tout. Satanée grand-mère. Quel genre de précautions vous prenez, mis à part laisser 70% de la plante? Est-ce qu'au niveau... quand on fait du prélèvement, surtout, j'imagine, quoi. Ne pas abîmer les plantes, ce genre de choses. Vous utilisez des outils spécifiques, je ne sais pas.
Moi, j'évite un maximum de tailler. Enfin, ça dépend quelle plante, on va dire. Par exemple, sur l'aubépine, qui est un grand arbuste, qui a une croissance très lente, je préfère ne pas la tailler du tout et récolter que ce qui est à hauteur d'homme. D'autant plus que bah, justement, ça me fait penser à une maladie qu'on trouve souvent sur l'aubépine, ça s'appelle le feu bactérien. Et c'est vrai que si on prélève des branches d'aubépine qui est porteuse de cette maladie, on peut après transmettre sur d'autres aubépines juste par le biais du sécateur, quoi. Donc c'est des précautions à prendre, on peut désinfecter nos outils d'un arbre à l'autre. Moi je pense à ça.
Oui, puis après en cueillette sauvage on essaye de pas récolter des gros espaces en fait. Enfin, moi j'ai tendance à, par exemple là, avec des ours, je vais piocher une touffe ici, une touffe là, mais je vais pas, comme si c'était une production, me faire un mètre carré entier, quoi.
Alors c'est toujours du prélèvement, c'est jamais par exemple un coup de bêche ou chose comme ça? Ou ça vous arrive aussi de, quand vous faites de la cueillette sauvage, de carrément prendre une pelle, une bêche, et puis carrément creuser dans le sol, couper la plante en deux, genre de choses, quoi. Vous faites toujours attention à bien conserver la plante là où elle est, à pas la laisser là où elle est.
Oui, puis on récolte les parties aériennes en général.
Ouais, c'est ça.
Que les parties aériennes. Et ça représente quel pourcentage de votre activité, ça, sur l'année, la cueillette sauvage?
Qu'on a des chiffres différents, là.
Ouais,
ah bah oui,
ouais, moi, j'ai pas trop chiffré, mais ouais, moi, je dois être à 30% sur la cueillette sauvage, à peu près.
Ah, quand même?
Ouais.
Donc, c'est une grosse part de ton activité de l'annuel, quoi.
Ouais.
Ouais.
Moi, je suis plutôt à 60%.
Ah ouais?
Ouais. 60% en volume, hein, de ce que je produis est issu de cueillette sauvage, ouais.
Et pourquoi 60%? Pourquoi c'est pas possible de faire ça dans un champ ou sur un terrain?
Moi, j'aime beaucoup cette partie-là. C'est une partie de mon métier que j'aime. Et du coup, j'ai développé ma gamme un peu en fonction de ça aussi.
Pourquoi cette partie-là? Pourquoi vous aimez cette partie-là plutôt que...
Ça permet de diversifier l'activité. Je ne suis pas tout le temps dans mon champ. Je suis aussi en pleine nature. J'aime beaucoup ce travail de recherche aussi de lieux de cueillette. Ça me plaît énormément. Et de voir en fait, l'évolution des sites de cueillette où je vais. Parce qu'en fait, la nature, même si on n'est pas là, elle évolue.
Ça fait combien de temps que vous pratiquez la cueillette sauvage?
Ben, j'entame ma 16e saison, là.
Et qu'est-ce que vous avez pu justement constater au niveau, développement des espèces? Est-ce qu'on parle souvent de changement au niveau écologique et tout ça, de changement climatique? Et qu'est-ce que vous avez pu observer en 16 ans? Est-ce que vous, votre activité, elle a plutôt tendance à chuter? Elle est restée suffisamment stable? Comment ça se passe? Comment vous voyez tout ça?
J'ai l'impression qu'il y a plusieurs questions dans ta question.
Bah ouais.
Je vais rester pour l'instant sur l'idée de la cueillette sauvage. C'est intéressant de voir l'évolution. On pourrait mettre ça à l'image d'une progression d'une forêt, par exemple, pour la cueillette d'ortie. D'année en année, on voit que le lieu en fait va évoluer sur. Alors, on part sur l'ortie, après ça va être de la ronce, et puis après il y a des petits arbres qui vont s'installer, et du coup l'ortie disparaît. Et voilà.
D'accord. Et on voit des nouvelles plantes arriver ou pas? Est-ce que on parle souvent, par exemple pour les espèces animales, on parle souvent de plantes qui ont été intrusives, je crois que c'est ça le mot, ou invasives, qui n'ont rien à faire là, qui sont là. Est-ce que ça existe aussi ça dans la cueillette sauvage?
Bah, en fait, la cueillette sauvage, ce sont souvent des plantes un peu invasives.
Ah voilà, oui.
Balaye des ours, en fait, elle colonise en fait les sous-bois. C'est
une plante qui a jamais été là naturellement. C'est...
Alors si, enfin
elle est de plus en plus présente.
Ouais. Ah oui.
Bah, en fait, c'est une plante qui absorbe les métaux lourds. Donc, enfin moi j'aime pas ce terme de plante invasive,
ah non,
de toute façon, parce que, en fait, si la plante, elle est là, c'est pour... elle a un rôle à jouer. Donc, par exemple, l'ail des ours, elle capte les métaux lourds du sol pour les transformer, pour les enlever. Donc, si elle se développe à cet endroit-là, il y a une raison.
D'accord. Alors, on va parler un petit peu de l'ail des ours, justement. Est-ce qu'elle a la même vertu sur l'homme? Est-ce qu'elle aurait tendance, par exemple, à enlever le mercure qui se trouverait dans le poisson qu'on mange?
Oui.
Ouais,
oui, c'est une plante qui va être détoxicante, pardon, des métaux lourds, et puis elle va être dépurative aussi et diurétique. Donc c'est une plante qui est vraiment intéressante à consommer. Et elle va avoir aussi un effet tonique Donc ça peut être intéressant, là au printemps, de se faire des préparations à base d'ail des ours pour booster un petit peu l'organisme. En fait, elle est riche en vitamine C et en minéraux et oligo-éléments.
Comment on l'identifie ?
Alors, du coup, l'ail des ours, c'est une feuille assez longue. Alors, elle a une nervure centrale. C'est une feuille verte avec, du coup, une fleur. Donc, c'est une tige avec une fleur blanche en forme d'étoile, un petit peu. Et alors, on la reconnaît surtout par son odeur aillée. Voilà. En ce moment, on l'indique, hein, l'ail des ours.
Et elle ressemble énormément au muguet.
Voilà. Et ça, il faut se méfier parce que le muguet, du coup, c'est une plante toxique, pour le coup. Et ça ressemble aussi un peu à l'arôme. Bon, après, la feuille d'arôme, elle a le bas de la feuille un peu plus découpé. Donc, normalement, on la différencie, mais ça peut pousser dans les mêmes zones.
Mais c'est surtout l'odeur qui les différencie. Je pense qu'on peut clairement faire la différence entre du muguet et de l'ail des ours, j'imagine.
Oui, oui, oui. Donc après, le risque, c'est justement quand il y a plusieurs plantes qui poussent sur le même endroit, en fait.
Ah oui.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on consomme alors dans l'ail des ours ?
Eh bien, on peut consommer la feuille et on consomme aussi la fleur ou le bourgeon de l'ail des ours. Donc, la feuille, on va pouvoir la préparer, par exemple, en pesto ou pour aromatiser les plats. On la consomme surtout fraîche. Après, ça arrive qu'on la sèche. Toi, tu la sèches, Fred ?
Moi, je la sèche, ouais, pour en condiment, après.
Voilà. Mais elle est surtout consommée fraîche, quand même, en transfo, quoi. Et donc, du coup, avec la feuille, oui, on peut faire des pestos. Et avec les boutons d'ail des ours, on peut faire des pickles. Là, c'est des vinaigres.
Ah oui, pour l'apéro.
Voilà, c'est ça. Ça fait un petit peu comme les cornichons. J'ai une petite recette, je ne sais pas si vous voulez ma petite recette.
Je ne sais pas si on aura trop le temps pour la recette. Ah, ça m'étonnerait, il est déjà 17.
Tu la mettras sur le site si les gens la veulent.
Avec plaisir. Fred, est-ce qu'il y a une petite suggestion là Alors, avant de passer à Fred, je pense à une question. On la trouve quand exactement l'ail des ours ? Au printemps, mais est-ce qu'il est plutôt début, fin, milieu ?
Et bien là, on la trouve maintenant. Là, on commence à avoir justement les boutons floraux. Et alors, elle a fait son apparition il y a à peu près 3 semaines. Là. Voilà.
Parfait. Alors, cette fois, c'est à vous, Fred.
Ah oui. Alors, moi, j'avais plus envie de vous parler de la ronce. Bon, si on n'a pas trop le temps, je vais peut-être juste parler de la...
La ronce. Si, allons-y.
Allons-y. Donc, en fait, il existe une centaine d'espèces de ronces.
Oui.
De rubus, on l'appelle comme ça.
Puis personne ne l'aime, la ronce.
C'est assez difficile à identifier, mais y en a beaucoup.
Ah oui ?
Alors, personnellement, je ne sais pas laquelle je récolte. Elles sont toutes médicinales. Mais, mais c'est très compliqué, quoi. Je sais, par exemple, que celle que je récolte, que je peux récolter vraiment sur les dunes, je vois bien qu'elle est différente de celle que je récolte dans les monts d'Arrée. Mais je ne pourrais pas mettre un nom précis dessus. C'est une plante qui... elle n'est pas très aimée, mais en fait, elle a tout plein d'intérêts. Elle permet de consolider les terrains en pente. Donc, retenir un peu le terrain. Elle a aussi un rôle pour protéger les petits animaux des prédateurs. Donc, il ne faut pas tout nettoyer quand on a une grande propriété. On peut laisser des ronciers. Ça a toujours un rôle important. C'est une plante qui est... Alors, au niveau des propriétés, c'est une plante qui est très riche en tanins. Donc, les jeunes pousses sont astringentes, donc antidiarrhéiques et dépuratives. Et elle est essentiellement conseillée pour tous les problèmes de bouche, donc les aphtes, les gingivites, les maux de gorge. Voilà. Et en petite recette, je peux faire quelque chose.
Allons-y, allez.
Ouais.
C'est l'invité, elle peut, elle.
Ah, mais oui.
Alors, on parle de macérat glycériné de jeunes pousses de ronces. Donc, un macérat glycériné, en fait, c'est un mélange d'alcool. On peut prendre un rhum, ça suffit. Avec de la glycérine végétale. Donc on fait un mélange à part égale de rhum et de glycérine végétale. Et on prend nos jeunes pousses de ronce qu'on met dans un bocal et on couvre à peu près à 5 fois la hauteur des pousses de ronce de ce mélange d'eau et glycérine végétale. Ce qui nous donne un macérat glycériné concentré. Après, la posologie de ce macérat glycériné, c'est on prend 10 gouttes 3 fois par jour pendant 20 jours. Et donc ce macérat, il est très bon pour les insuffisances respiratoires, pour la fatigue générale, et il améliore le tissu osseux, pour, entre autres, l'ostéoporose, qui est une maladie qui est en progression. Donc, voilà ouais. pour le macérat glycériné.
D'accord. Alors, on a fait quelques plantes. On va parler dans un instant du festival. Mais on a encore quelques minutes, je pense. Ou quoique, même pas sûr. Non, même pas, j'ai envie de dire. Bah, allons-y. Donc, le festival, la printanière, c'est au Run.
Donc la printanière, ça se passe donc au Renard Pince à Châteaulin, le dimanche 6 avril, donc dans 10 jours, là, de 13h30 à 18h30. Et donc bah, on aura le plaisir de vous proposer comme d'habitude un marché de paysans, paysannes, herboristes. On aura quelques invités aussi au niveau association et artisanat. Et on proposera aussi des ateliers pour les petits, pour les grands, des sorties botaniques et des conférences. Fred, tu veux donner un peu de détails peut-être sur...
Allons-y.
On a le temps ?
Okay. Bien sûr.
Donc en atelier, donc ça commence dès 14h les ateliers. Donc on a un atelier de fabrication de bonbecs. Pour les enfants.
Ah, pour les enfants.
Mais bah, aussi pour les,
mais aussi pour les grands.
C'est deux ateliers différents.
Ah oui.
Quand
même.
Après, on a un atelier marcotage et bouture animé par Julie Lepanne, qui est paysanne herboriste à Larpente. On aura aussi un atelier de confection, bah, justement, de macérat glycériné, dont on vient de parler, qu'on appelle la gémothérapie. Voilà, animé par Marjorie. En sortie botanique. Donc, on a une sortie botanique signée. C'est-à-dire qu'il y a Claire Tanguy qui nous parlera des plantes comestibles, médicinales, mais aussi les plantes toxiques. Et c'est Neza qui traduira cette balade en langue des signes.
Ah, super.
C'est super.
Ça, ouais. C'est super.
C'est la deuxième fois qu'elle vient et c'est très apprécié. On a aussi un ethnobotaniste, Laurent Gall, qui viendra faire une balade botanique en expliquant les usages des plantes qui ont été faits, enfin les usages des plantes par nos grands-parents.
Ah oui,
ça.
D'accord.
Ouais.
Mais alors c'est quoi exactement une sortie botanique ? Comment ça va se... Comment vous avez préparé ça au niveau du run ?
Il y a... Bah en fait, il y a un point de rendez-vous donc, au niveau du run. Et après, ils partent dans les chemins autour du run. Je crois qu'ils vont jusqu'à... Ils passent dans un bois. Voilà. Donc, il faut prévoir ses bottes. Il faut arriver...
Ah oui, prévoir ses bottes. Donc, ils vont poser des plantes un peu partout, comme ça, et puis...
Ah non, c'est de la reconnaissance, du coup, de plantes sauvages.
Donc, c'est ce qui existe sur place.
Voilà, tout à fait.
Ah, c'est encore plus intéressant.
Ouais.
Ok.
Et notamment pour l'atelier confection de macérat glycériné, elle ira... vous irez, en fait, prélever sur les arbres des bourgeons... Donc c'est chouette aussi de savoir identifier des arbres juste par rapport aux bourgeons.
Mmh. Mmh.
Et donc il y a aussi deux conférences. Donc les conférences sont à prix libre. Une sur les algues, animée par Florence Kreschkadek, qui est herboriste ethnobotaniste, qui a édité un livre sur les... qui est auteur, pardon, d'un livre sur les algues. Et une autre conférence sur les hydrolats. Donc ça, c'est Caroline Laloux, qui est paysanne distillatrice. Et elle nous présentera les hydrolats, les eaux florales et les eaux laiteuses. Comment les fabriquer, comment les utiliser. Et on finira la journée par un spectacle performance qui s'appelle Guérir la jungle. Et ça, c'est Auré et Géranium F qui feront ce spectacle. Pardon.
D'accord. Et puis vous, j'imagine que vous êtes aussi toutes les deux là-bas présentes. Vous avez des stands. Qu'est-ce que vous allez proposer ?
Alors, moi j'aurai mon stand, donc je proposerai mes plantes sèches, donc en plantes simples et en mélange. Voilà pour moi, Fred, cette année.
Alors moi j'ai fait le choix de ne pas avoir de stand et de profiter de la journée et de participer aux ateliers.
Il y en a qui montent de rien. Hein.
Moi je triche un peu aussi, j'ai une stagiaire qui va tenir le stand à ma place pour juste profiter de la journée. En fait, ça fait 4 ans. Qu'on est sur toutes les éditions à préparer, à tenir nos stands. Et c'est très frustrant, en fait, de ne pas pouvoir participer à des ateliers qui sont vraiment chouettes. Donc, cette année, on profite.
Donc, je passe une dernière petite info, c'est que tous ces ateliers, sorties botaniques, conférences sont bien décrites sur le site internet. Et pour s'inscrire, il faut passer par le site internet.
D'accord. Et on mettra, évidemment, le lien de tout ça sur le site de la radio à transistor.bzh.
Voilà.
Le petit article qu'on fait juste après l'émission.
Ok, super.
Merci beaucoup d'être venue, Céline Fichou de la Fée des Champs à Saint-Éloi. Et
merci
puis, alors je reprends votre nom, Fred Trochereau, parce que je ne l'ai pas dit. Elle est paysanne, herboriste et productrice à Flore d'Arrée, dans les Monts d'Arrée, c'est ça?
Oui, plus en Ménèze. Oui.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.